I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les légendes et bienvenue pour ce 89e épisode avec un coach sacré du circuit, Tony Nadal. Avant de commencer ce nouveau podcast, on a la chance d'avoir un sponsor pour le 2 épisode de la quinzaine de Roland-Garros avec Winamax qui est le site référence pour placer quelques paris en ligne et voir si vous êtes plutôt de la team « je sens rien » ou « ça joue tellement l'acier que j'invite tout le monde en finale de Roland ». Winamax vous garantit les meilleurs codes du marché et on vous a dégoté un code de 15€ de free bet en insérant TL15 en majuscule au moment de votre inscription. C'est hyper simple et rapide, l'appli est dispo dans tous les stores et en quelques clics c'est réglé. Et sachez qu'au moment de votre premier dépôt, Winamax vous donnera le double de celui-ci en free bet, donc en pari offert, c'est cadeau. Évidemment, et c'est le message le plus important pour nous en tant que passionnés de tennis et promoteurs de ce sport magnifique, le pari sportif est un divertissement et seulement un divertissement. Le jeu responsable est primordial et on vous fait confiance. Pas de message d'insulte aux joueurs ni aux joueuses qui en reçoivent déjà des centaines de parieurs qui ont dû oublier d'utiliser les modérateurs de jeu mis en place par Winamax. Sachez aussi qu'il est formellement interdit aux mineurs de parier, dont vigilance maximum des parents de certaines légendes, qui peuvent écouter le podcast. Merci à Winamax de nous soutenir pendant la quinzaine. Ce type de partenariat nous permet de garder l'accès au podcast gratuit. C'est donc hyper important pour nous afin de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et maintenant, place à l'épisode. Tony a commencé le tennis à 13 ans. Il a fait ses armes en tant qu'entraîneur avec son frère Miguel Angel pendant 5 ans. Il cumule le plus grand nombre de grands chelems gagnés en tant que coach, 16, avant d'avoir été remplacé par Marin Vajda et Novak Djokovic, pas trop mal, pour un gars qui voulait devenir prof d'histoire. Big merci à Tony, qui a fait l'effort de parler en français pour notre plus grand bonheur. Un poil de concentration et vous pourrez découvrir un nombre de pépites incroyables. Je vous propose aujourd'hui le récit d'un homme qui n'a jamais douté en son neveu, il le dit lui-même. Ce que Tony aime par-dessus tout, c'est travailler la tête. Il nous explique pourquoi son neveu et lui ne sont pas attardés sur les juniors en se consacrant sur les tournois futurs dès les 14 ans du Mallorquin. On retrace ensemble une partie de ses années en tournoi Challenger dont il se souvient avec autant de précision que ses titres à Roland. Entre autres pépites, Tony nous livre la raison pour laquelle Rafa n'a jamais cassé et n'en cassera jamais très certainement de raquette en match ou à l'entraînement. Vous avez aujourd'hui accès au parcours d'un coach hors norme qui n'a jamais perdu le goût des choses simples, comme marcher par exemple à travers Paris pour découvrir les rues de la capitale, qu'il doit connaître comme sa poche. On revient sur ce qui est selon Tony le plus grand match en carrière de Rafa. Notre invité nous livre pourquoi Djoko et Roger sont si exceptionnels et se mouille même à nous expliquer pourquoi le Serbe est un peu moins populaire et qui est, selon lui, le meilleur des trois. On aborde enfin la différence entre la nouvelle génération et les trois monstres, hélas vieillissants. L'interview date un peu, mais les connaissances de Tony sont intemporelles. Alors sans attendre, place à ce 89e épisode. Bonne écoute et bonne découverte à tous.
Tout va bien ?
Oui, tout bien. Je suis à la maison.
D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien, Tony. J'ai une présentation. On peut se tutoyer, c'est bon ?
Quoi ? Je ne comprends pas ça.
Je peux dire tu ?
Ouais. Bien sûr.
Ok, super. Tu me dis sur la présentation, s'il y a des choses qu'il faut modifier, t'hésites pas à me dire.
Non. Dis ce que tu veux, pas de problème.
On verra si tout est bon. Alors, Tony Nadal, Antonio Nadal Omar, dit Tony ou Oncle Tony. Tu es né le 21 février 61 à Manacor. T'es papa de 3 enfants et l'oncle de Rafa, son entraîneur historique, le coachant à ses débuts en 90 à 3 ans et jusqu'à ses 31 ans fin 2017. Tous les deux, vous êtes un des plus célèbres tandems joueurs-entraîneurs de l'histoire du sport. À tes côtés, Rafael Nadal devient un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, avec 19 titres en Grand Chelem à ce jour, dont 10 Roland-Garros, 35 Master 1000, 30 ATP 500 et 250, 4 Coupes Davis, une médaille d'or, en double au JO de Pékin. 209 semaines cumulées à la place de numéro 1 mondial, 4 ans sur le toit du monde. Beau boulot, Tony. Le sport, c'est un peu une religion dans votre famille parce que ton frère Miguel Angel Nadal est considéré comme le meilleur joueur de foot de l'histoire issu des Baléares. Il a commencé au RCD Majorque, puis a joué 8 ans au FC Barcelone de 91 à 99 et compte 62 sélections pour l'équipe nationale d'Espagne au poste de défenseur central. Toi, Tony, tu as commencé le tennis quand tu avais 13 ans. Avant ça, tu jouais au foot et au tennis de table. Ouais, tu étais plutôt très bon, contrairement à ce que tu peux dire et ce qu'on peut entendre. Tu as fait des études à Barcelone, tu jouais là-bas et tu es revenu vers 21-22 ans sur les Baléares. Tu as commencé par entraîner ton frère de 5 ans de moins, Miguel Angel. Et avec lui, tu dis que tu as été un mauvais entraîneur. Il a quand même gagné le championnat de Majorque de tennis, mais Miguel est surtout devenu très fort au foot. Tu dis que ta plus grande qualité en tant qu'entraîneur, c'est la parole, ta parole honnête et ton bon sens. Ton plus gros défaut, c'est peut-être d'avoir mis un peu trop de pression, parfois à Rafa. Tes débuts avec Raphaël ont donc commencé quand il avait 3 ans et qu'il est venu te demander de taper quelques balles au club où t'entraînais. À 7 ans, t'as rapidement remarqué qu'il était talentueux et pourrait devenir champion d'Espagne. Tu dis que Nike, qui aime bien le théâtre, a inventé la légende disant que Rafa jouait de la main droite et que tu l'as fait changer pour devenir redoutable gaucher. Au départ, Rafa était sur la voie de Fabrice Santoro. Il jouait tout à deux mains, entre 3 et 5 ans. Tu savais pas s'il était droitier ou gaucher. À 10 ans, tu lui as dit combien de joueurs à deux mains sont dans le top 10. Aucun. Alors, il a changé. Et comme pour mettre plus de puissance, ça partait du bras gauche, il est devenu gaucher, mais seulement au tennis, car tout le reste, il le fait à droite. Tu as été un temps l'entraîneur qui a gagné le plus de grands chelems, 16, juste devant Tony Roche et Ivan Lendl, qui ont cumulé 15. Puis le 2 février 2020, Marianne Vajda t'a remplacé lorsque Djoko a gagné son 17e titre à l'Open d'Australie. En décembre 2016, Carlos Moya devient à tes côtés le second entraîneur de Rafa. Et à partir de 2017, Moya est entraîneur à temps plein, car depuis, tu te consacres entièrement à l'académie de tennis à Majorque. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de très important que j'ai oublié, Tony ?
Non, rien, pas du tout.
Bon, très bien. Ça va, j'ai bien fait mon boulot. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis ?
Je me souviens de 1972, quand on fait le final de le Master, quand on joue le Master de la fin des années à Barcelone. Et je me souviens que je vis jouer le final de Stan Smith contre Ilian Stas. Et après ça, cette finale, mon joueur préféré, c'est toujours Ilian Stas, parce que j'aime le plastique de ses coups, de ses mouvements. Je commençais à regarder le tennis, pas jouer presque jamais, parce que à ce moment, il n'y avait pas un club en notre ville.
Ouais.
Et après, quand j'ai 13 ou 14 ans, je suis allé quelques fois. Quand j'ai 13 ans, je suis allé quelques fois à le club que déjà il avait là. J'ai commencé à jouer régulièrement.
Ok, et à quel moment tu as voulu devenir entraîneur? Tu as compris que ton métier, ça allait être d'être entraîneur?
Bien, toute la vie, j'aimais être entraîneur, pas seulement jouer, parce que toujours j'aime, égal que professeur. Quand j'étudiais de l'histoire. Je voulais être professeur d'histoire aussi. Mais à l'université, j'étudiais histoire, mais bien après, j'ai changé à droite. Non, mais toute ma vie, j'aime d'avoir quelques relations avec les jeunes pour essayer d'aider les jeunes. Et j'aimais le tennis, j'ai joué quand j'étais jeune jusqu'à 20 ans. Après, quand j'avais 20 ans, je ne jouais pas mal. Je suis en deuxième catégorie en Espagne, mais pas suffisamment bien. Alors, je pensais non, je reviens à Mallorca et j'ai commencé à faire d'entraîneur, premièrement avec mon frère. Miguel Angel, qui a gagné le championnat d'ici, de les îles. Et après, j'ai porté le club de Manacor, d'un petit club. Je crois que nous avons un bon succès parce que dans mon club, il y avait beaucoup qui jouent vraiment bien. Et tous, ils sont seulement du club. Je ne jouais avec qui vient de dehors, non? Et il y a un qui était le numéro 2 de l'Espagne, une autre le numéro 4, une femme, après une autre le numéro 7. Et Après, il arrive Raphaël et une autre dans le même temps, parce qu'il était le numéro 8 de l'Espagne. Raphaël, il était le numéro 1. Alors, je ne travaillais pas beaucoup parce qu'après, j'ai joué avec mon neveu. Mais toute ma vie, j'aimais beaucoup entraîner.
Et tu dis que quand tu étais jeune, il n'y avait pas de club au départ à Manacor ?
Non, il y avait seulement un cours. Bien, le tennis, ce n'est pas un sport très populaire dans l'Espagne. Tout le monde, il joue à foot. J'ai joué à foot et j'ai joué bien. J'ai fait des sports parce que j'ai joué à ping-pong, à tennis table. Après, pendant l'été, j'ai fait des natations parce que nous sommes toujours devant la mer et je fais un peu de compétition en natation et après, et aussi, je fais un peu de chaise. Il n'y avait pas beaucoup de tennis. Et tout de suite, quand ils ont fait le club, nous avons commencé à jouer.
Ok. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu entraînais Rafa au départ, quand il était jeune, où tu as douté, où tu t'es dit, je ne sais pas si ça va marcher ?
Non, toujours, je pensais qu'il va marcher. Toujours. Parce que je crois que ça, c'est une chose très importante pour chaque entraîneur. On doit avoir de la confiance que les choses, il doit aller bien. Sinon, c'est très difficile de faire le travail bien fait. Je ne vois presque jamais une personne qui fait le travail bien fait sans confiance. Toujours. J'ai eu entre autres confiance avec Raphaël. Et j'ai eu entre autres confiance, premièrement parce que je le vais avoir, mais aussi parce que j'avais une autre enfant qui joue avec moi, qui était le numéro 2 de l'Espagne et qui est. Raphaël, il est mieux. Alors je pensais, si c'était le numéro 2, Raphaël, qui a pris de talent, on peut être le premier. Et toujours était ça. C'est normal que quelquefois, tu ne sais pas s'il sera bien ou non, mais au dernier moment, si tu n'as pas de confiance, suffit confiance, je ne m'en vais à travailler peut-être chaque dimanche ou les jours de Noël. Et j'ai une chose que je crois qui était bien. Je travaille toujours, j'aime travailler. Et pour moi, c'est la même chose. Si c'est le dimanche, si c'est le jour de Noël, pour moi, beaucoup de fois, je me souviens, je vais à travailler, je dis bien, aujourd'hui, on travaille 2 heures, et on fait plus, jusqu'à que les choses aillent bien, et après, bien. Et ça, je peux faire parce que j'avais la confiance, mais quand même, j'ai la même confiance avec les personnes qui sont à l'académie, parce que premièrement, je pense que toujours, chacun, il a la possibilité d'être bon. Je ne sais pas, pas tout le monde peut être un Federer, pas tout le monde peut être un Djokovic ou un Raphaël, mais beaucoup de personnes, tout le monde peut être mieux de ce que lui-même il sont, non?
Ouais.
Alors ça, c'est le travail, c'est essayer d'être mieux de ce que tu es, rien plus.
Prends 5 secondes pour nous mettre 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, un like sur YouTube et un commentaire, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Ça nous aide à faire connaître le travail. Inscris-toi à notre newsletter aussi, ça nous permet de nous soutenir pour faire connaître la chaîne et diffuser le travail. Je t'enverrai automatiquement à chaque nouvel épisode le conseil coaching numéro 1 de nos invités, donc des joueurs, des joueuses, des coachs, des prépas mentaux, des prépas physiques à mettre en application dès ton prochain entraînement. Tu auras un fichier de rattrapage de tous les précédents invités, c'est cadeau. Et enfin, on organise notre premier stage de légende avec le prépa mental Jean-Philippe Vaillant. Sur le cours et en dehors du cours, c'est fin juin. Tu as tous les liens dans la description de l'épisode pour la newsletter et le stage. On y retourne.
Oui, j'ai lu effectivement que tu disais souvent t'emmener Rafa pour une session de 1h30 et finalement ça durait 2h, 3h, 4h parce que tu voulais faire travailler.
Oui, oui. Je voulais faire travailler des choses. La première chose, j'aime travailler la tête parce qu'au dernier moment, être capable de résister un peu plus. C'est très important dans les sports. Les sports, égal quand tu vas courir, quand tu joues à quelque chose, c'est toujours faire un peu plus, un peu plus. Et pour faire un peu plus, tu dois avoir la tête bien. Et la tête bien, il devient quand tu ne fais les choses que que tu aimes de faire, c'est quand tu fais des choses que pour vous. Ménager un peu plus, mais je fais un peu plus. Et ça, c'est, je crois, c'est le plus important. Mais je ne, pas seulement pour gagner, c'est pour améliorer mon aspect mental et pour améliorer ma prédisposition dans la vie. C'est ça.
Quel est le coup le plus naturel, tu penses, de Rafa?
Bien, le coup, je crois que c'est le coup de droite, mais quand il était jeune, il frappe toute la balle à deux mains. Je fais jouer à Raphaël avec le deux mains parce que chaque fois que la balle vient au centre du court, il frappe la balle avec le deux mains, mais de la côté gauche. Non? Pour ça, je pensais qu'il était gaucher.
Ouais.
Non? Et dans ce moment, il avait un très bon coup de droite avec deux mains. Quand il était jeune, il peut faire tout. Pas très loin de Santoro. Il fait beaucoup d'amortis. Il fait bien, pas exactement comme, mais il frappe un peu plus fort. Mais il avait une très bonne touche avec son coup naturel de droite. Mais quand même, quand il avait 10 ans, j'ai fait jouer avec une main parce que je pensais déjà toujours, je pensais au futur, non? Et le futur, je pensais, doit être beaucoup plus difficile d'être top 10. Quand il joue à deux mains, alors on doit jouer avec un.
Tu penses qu'il aurait fait quoi comme carrière à deux mains?
Oui, bien sûr. Chacun, c'est pas seulement une chose de main ou de main, parce qu'au dernier moment, c'est une chose d'une décision de frapper la balle fort, non?
Ouais.
Mais quand même, pour le coup de revers, si tu frappes à deux mains, tu ne perds de distance, non?
Mm-hmm.
Parce que c'est la même position avec une main qu'avec deux. Mais pour le coup de droite, oui, tu perds un peu de distance. Et alors, c'est mieux de frapper le coup de droite avec une main. Et je crois que c'est plus difficile de frapper plus fort ou très fort avec une main.
Tu dis qu'une,
avec deux mains, pardon.
Tu dis qu'une chose assez difficile, c'est d'accepter la réalité, de rechercher l'objectivité,
oui.
D'éviter le mensonge. Alors que, c'est-à-dire de travailler sur, d'accepter là où on n'est pas bon. Alors que moi, j'ai toujours entendu que Rafa Nadal travaillait 80% du temps sur là où il était très bon pour améliorer ses qualités.
Bien, il y a une chose. Aujourd'hui, on vit un monde où il y a vraiment un populisme naturel de tous les mondes. Nous ne pouvons dire à nos enfants qu'ils ne sont pas suffisants. Tu dois dire toujours, quand tu écoutes des psychologues, qu'on dit pour avoir plus confiance, on doit dire que nous sommes bons et que je fais parce que je veux faire. Et que, non, je disais toujours, pas exactement ça, je disais toujours, tu n'es pas suffisamment bon, mais tu seras bon. Et ça, c'est mon idée, parce qu'il y a une chose qui est plus importante dans la vie. Qu'est-ce que la différence entre les personnes et le reste d'animaux, non? Où est la différence? C'est la capacité de m'améliorer. Alors, ce que je dois faire, ce que je dois essayer, c'est m'améliorer toujours, toujours. Et c'est difficile de m'améliorer quand tu penses que tu fais toutes les choses bien.
Ouais.
Alors, je disais toujours, Raphaël, non, non. Qui ne fait pas les choses suffit bien. On doit essayer de faire mieux. Toujours, je disais, améliorer, c'est toujours nécessaire, mais aussi c'est toujours possible. Ça dépend de la tête, ça dépend de ta décision. Bien sûr qu'il y a personne qu'il peut améliorer rapidement, non? Qu'ils ont un très bon touche, un très bon physique, bien, et une très bonne coordination, et il peut améliorer, mais il y a des autres personnes qui ont besoin un peu plus de temps, mais si tu le mets cette temps, alors tu peux être aussi bon.
Est-ce que ça veut dire que vous, ensemble, vous travaillez 80% du temps le coup droit ou au contraire plus sur les faiblesses de Rafa?
Non, toujours. Quand il était jeune, j'avais premièrement beaucoup de temps avance. Quand j'ai commencé j'entraînais pas beaucoup de temps dans le club parce que je ne sais pas combien de temps j'entraînais, peut-être 12, 13 ans, non? parce qu'après j'ai travaillé seulement avec Raphaël. Et quand j'ai travaillé le club avec l'autre joueur qui était le numéro 2 de l'Espagne, il frappe la balle pas très fort parce qu'il avait le coup de... Il avait son corps pas trop fort, non? Il n'a pas suffisamment force. Bien, je pensais, bien, après, il prendra la force. Nous essayons de frapper la balle chaque jour plus fort, non? Ouais. Au futur. Mais j'ai regardé une vidéo de golf de Jack Nicklaus, qui était le meilleur joueur de golf de tous les temps avant de Tiger Woods. Et dans cette vidéo, Jack Nicklaus, il dit premièrement fort, après des danses. Et j'ai changé. J'ai dit oui, cette personne, il a la raison. Premièrement, on doit essayer de faire le mouvement naturel avec une bonne puissance, non? Parce que quand tu mets beaucoup de balles de danse, après tu as un problème, non? Pour faire chaque fois le coup plus fort. Alors, j'ai changé. Quand j'ai commencé à entraîner à Raphaël, je faisais qu'il peut frapper la balle très fort et je fais deux choses. Une part de le danse, c'est frapper la balle très fort avec le basket. Avec des balles, j'ai lancé toujours balles facilement. Il doit frapper la balle très très fort, égal si la balle va dedans ou dehors, non? Et après il y a un temps que on doit avoir la concentration. Après, je ne sais pas, 30 minutes ou 40 minutes ou une heure de mettre balle dedans, non? Parce qu'on doit faire toujours la combinaison. Mais je faisais un coup chaque jour. Je faisais un exercice chaque jour, que c'est le coup de droite de ton place de revers.
Le décalage?
Oui. J'ai fait toujours ça parce que quand tu fais cet exercice, ça, il doit faire le coup gagnant de ce côté, non?
D'accord.
Le coup de droite, parce que quand tu fais cet exercice, tu dois mettre très bien les jambes. Quand tu fais le coup de droite de la part naturelle, de la place naturelle, tu peux arriver avec une position bonne ou mal, et la balle va bien. Mais quand tu fais le coup inverté, inside out, tu dois mettre toujours bien les jambes. Et je fais toujours le coup gagnant. Parce que quand j'ai joué au tennis, j'avais un très bon contrôle de la balle. J'ai fait très moins pots, mais je ne gagne pas un point. Alors, quand tu ne gagnes un point, tu ne peux être un bon joueur. Et je savais ça déjà, parce que j'ai fait l'expérience avec moi, alors je ne voulais que mon neveu, il fait la même chose. Et quand il était jeune, il avait toujours un très bon coup de droit parce que nous faisons beaucoup le coup de droit. Dans ma idée, il était toujours, quand tu commences le point avec ton coup de droit, on doit finir. Tu sais, tu dois essayer de faire un bon coup et chaque fois prendre un pli d'avantage jusqu'à que tu arrives à gagner le point avec 2, 3, 4 ou 5 coups. Mais ça doit être la chose la plus importante.
Quel est ton meilleur souvenir chez les jeunes, chez les juniors?
De Raphaël?
Ouais.
Bien, Tarbes, je crois. Quand il a gagné bien, il a gagné deux tournois à la France. Il a gagné Auray, que j'ai un souvenir extraordinaire de là. Nous étions avec une famille. Très jolie famille. C'est la première fois que je suis allé à un tournoi très important parce que nous sommes habitués à jouer à l'Espagne, à Mallorca. Après, nous sommes allés à Tarbes, à Auray, pour jouer le match, le championnat presque d'Europe, non? Il est arrivé à la finale et je vis incroyable. De très bons joueurs. Bien, à la finale, il a gagné à Murray, à Pandy, il a gagné à Jimmy Murray, à son frère, non? Il perd 5-0 le premier set. Ouais. Et, il a gagné le premier set et il a gagné en 3 sets. Mais tu sais, jamais je suis allé à un tournoi que pour moi, il était gagné, était jamais le plus important. Je me souviens à Auray, la première fois, le premier match, Raphaël, toujours, il a eu beaucoup de problèmes avec le service parce qu'il est naturel droitier, non? et nous avons un problème. Et avant de sortir à jouer, il manque, nous sommes allés à le premier match à faire le warm-up.
L'échauffement.
Et Raphaël, il a commencé à faire le service mal. Et j'ai changé le grip de Raphaël avant de sortir à jouer le premier match. Parce que pour moi, ce n'est pas jamais un très grand problème. Le tournoi, quand même. Non? Ok, nous essayons de faire avec une autre grip le service. Bien, il était bien. Et après, à Tarbes, aussi, c'est incroyable. Quand il a gagné à Tarbes, il a gagné le final à un joueur français qui, après, il n'était pas très bon. Je crois que s'appelle Gély. Pour moi, c'était extraordinaire quand il a gagné Tarbes.
Ouais, Tarbes. Comment tu te souviens la traversée des futurs et des challengers? Comment ça s'est passé?
Bien, le futur... Nous sommes commencés à jouer très vite le futur. Quand il avait 15 ans, quand il avait 14, il a joué déjà quelques qualifs. J'aime jouer avec le jeu, seulement les ITF. J'aime faire les choses toujours le plus simple possible. Quand il avait 15 ans, je pensais, OK, je veux savoir quel numéro je suis dans le monde. Et après, je dois aller à remonter ça, non? Et je veux qu'il prenne l'habitude de jouer le jeu qu'il doit faire au futur. Pas un jeu que tu peux faire quand tu joues les ITF de juniors. Tu joues, tu penses que ce jeu, il était le bon, mais après, quand tu vas jouer le professionnel, il change un peu. Et je ne voulais ça. Alors, nous jouons toujours futur aux satellites dans ce moment. Parce que j'aimais de faire le jeu déjà quand il sera grand. Et après, une autre chose. Jamais j'ai fait une complication. Jamais je m'en vais à jouer à Singapour si je peux jouer à l'Espagne. Tu sais, pour moi, le rank n'était jamais très important. Si je suis le numéro mondial de junior ou de moins 16, non. Jamais je savais. Je veux seulement savoir, ok, mon niveau, c'est maintenant, vrai niveau, c'est le numéro 500 du monde. Ouais. Ok, ça c'est mon niveau, ça c'est pour moi le plus important. Jamais été important le ranking junior. En fait, il n'avait jamais le ranking pour jouer Roland Garros junior, tu sais, ou il ne peut jouer Wimbledon junior. Je crois que nous avons un wildcard pour jouer Wimbledon Junior, parce que c'est l'unique tournoi qu'il a joué quand il était jeune.
Et son résultat,
demi-finale, il a fait quand il avait 16 ans. Il n'était pas junior encore, il était cadet, non? Il a fait la demi-finale et je voulais aller voir junior, Wimbledon, pas parce que je pensais que c'est important, c'est pour... Oh, nous pouvons aller avoir Wimbledon, et ça c'est tout, mais pas une chose de... Pour moi, l'important de toute ma vie, j'ai travaillé en pensant au futur, jamais au présent. C'est pour ça que jamais été pour moi très, très important de jouer les championnats des juniors, non? Parce que je pense, ok, je vais être bon au futur.
Sa progression au classement ATP, ça a été quoi progressivement, les étapes?
Bien, les étapes, Raphaël, il a progressé vraiment vite. Quand il était jeune, il a commencé à jouer, comme je dis, le futur, 15 ans, quand il avait 15 ans, il joue qualis. Mais toujours, il a une chose dans la tête. Je disais toujours, nous ne pouvons pas rester beaucoup de temps dans le futur. On doit aller très vite. Parce que si tu restes trop de temps, tu commences à faire le jeu du futur. Et c'est la même chose. Quand tu joues à football, tu dois faire un jeu de professionnel, pas un jeu de troisième division ou deuxième division. Alors, je savais que toute la vie, que quand tu es bon, tu fais des big steps. Non? Toujours. Tu ne fais pas, oh, maintenant un peu, non. Juste, il y a quelquefois des personnes qui font ça, mais le normal, c'est aller très vite. Et je pensais, non, bien. On doit faire une chose pour être bonne vie. Non? Alors, qu'est-ce que mon idée, c'est quand il était jeune et il joue le futur, je pensais, quel jeu tu dois faire au futur? Et j'étais toujours entre Muster et Jimmy Connors, parce que j'aime l'intensité, et je sais que Raphaël, il aime l'intensité, mais je vais être plus agressif que Muster, non? Alors, bien, on fait ça, et quand tu joues futur, tu n'as pas de peur de perdre, parce que tu sais que tu joues avec des personnes qui sont un peu plus grandes, et tu peux faire ce que tu veux faire. Mm-hmm. Quand tu joues avec les juniors, tu es toujours, si tu es le numéro 3, ou 2, ou 1 mondial, tu as peur de perdre avec le numéro 5, le numéro 5 ou le 6. Pas peur, mais c'est plus difficile de faire un jeu plus agressif, plus violent, non? Et Raphaël, il a fait ça et il apprend très vite parce qu'il a commencé à gagner quelques matchs. Après, je me souviens, quand on revient de Wimbledon, il a commencé à déjà gagner, il a gagné un futur.
Ouais.
Il avait 16 ans, il a gagné un futur. Un peu plus tard, il a gagné une autre. Et après, il a gagné les 4 derniers futurs qu'il a joués. Au fin de l'année, je voulais qu'il arrive à un ranking pour pouvoir jouer Challengers. Alors, quand il a fini cette année, le 2002, il a fini le numéro 200 du monde. Parce que je voulais être le 200 du monde, 200, parce que je voulais à jouer Challengers. Oh, ils me sont dit la possibilité d'aller à l'Australie, mais j'ai dit, t'es fou. Je ne m'en vais à l'Australie pour jouer au tennis. Non, non, je m'en vais. Et nous sommes allés à jouer à France. Nous sommes allés à jouer à Cherbourg, qu'il a fait finale. Après, il est allé à jouer 2003. Cherbourg, non, il a commencé à jouer à l'Allemagne de Challengers Indoor parce que je voulais qu'il apprenne à jouer à Indoors aussi parce que c'est le plus difficile pour lui. Il a joué à Hamburgo, il a joué je ne sais pas où plus et après nous sommes joués à Cherbourg, une autre dans la France, je ne me souviens pas maintenant le nom, une très belle ville. Cherbourg, il a fait finale, l'autre il a perdu contre le centre du monde et après il a joué déjà seulement Challengers. Il a joué Challengers jusqu'à qu'il a joué à Aix-en-Provence. Il a fait finale. Il a perdu contre Puerta. Il a gagné à Gasquet, premier tour. Après, il a perdu la finale avec match point. Il avait match point contre Puerta. Il a perdu. Il a passé le 10e du monde. Nous sommes arrivés à Monte Carlo. Ah bien, non, il a joué Barletta, Cagliari. Il a fait finale champion de ces deux tours de Challengers et il était le numéro 100 quand il arrive à avril, il était le 100, le 104, le 105 du monde, non?
Ouais.
Au 120, je ne me souviens pas beaucoup. Nous sommes allés à jouer à Monte Carlo, il a passé le quali. Et après, il a battu. Nous avons eu beaucoup de la chance. Parce que quand on fait le tableau, pour le tableau final, j'ai dit, oh, c'est bien si nous pouvons jouer contre Cucera.
Carole,
parce que je sais que Cucera, il n'était pas vraiment joueur de terre battue, et qu'il était déjà 30 ans, je crois, dans ce temps. Je pensais que Raphaël, il peut battre. Et nous sommes joués contre lui. Et Raphaël l'a battu facilement, je crois 6-2, 6-2. Et après, nous devons jouer contre Albert Costa, qui était le champion de Roland-Garros, ou un autre joueur. Et je voulais jouer contre Albert Costa, parce que je savais que si Albert Costa doit jouer contre un jeune de l'Espagne, c'est très difficile pour lui. Alors, nous sommes joués contre Albert Costa, Raphaël l'a battu. Albert Costa, il était le numéro 7 mondial.
Pourquoi c'était difficile pour Albert?
Parce que toujours, quand tu joues contre un jeune de ton pays, tu n'aimes pas ça. Quand tu dois gagner, c'est toujours compliqué. Tu n'aimes pas perdre avec un jeune. Et un jeune, je me souviens, avant de sortir à la cour, j'ai dit à Raphaël, tu dois faire beaucoup d'amortis. Tu dois faire des choses pour faire penser qu'il n'était pas commode pas normal avec toi. Et il a commencé à faire des choses, une coupe haute, une coupe comme ça. Albert Cox, qu'il était beaucoup mieux que Raphaël, il a perdu la confiance et Raphaël l'a gagné. Yes. En 17. Après ça, Raphaël, il était déjà autour. Nous sommes joués après à Barcelone et après, il peut jouer déjà tout le temps le circuit professionnel. Il a fait encore un challenger à Segovia. Mais après, il a joué aussi à Hamburgo. Hamburgo, il a battu à Carlos Moya, qui était le numéro 5 mondial. Et avec moi, il a battu à Carlos Moya et Albert Costa, le numéro 5 et 7 mondial. Alors, tu sais que déjà, tu peux jouer.
À ce moment-là, il avait 16 ans, hein, à ce moment-là.
Oui, 16 ans. Il avait 16 ans.
Et mentalement, ça a été le déclic pour exploser ?
Oui, il avait toujours le même mental, toujours. Parce qu'il n'avait presque jamais de peur, tu sais. Je disais, on peut jouer avec tout le monde, on peut battre tout le monde. Il avait ça dans sa tête. Et aussi, Raphaël, il a une chose. Beaucoup de fois, les personnes ils me sont demandé qu'est-ce qu'il a fait pour le mental. Raphaël, il a fait seulement une chose. Je fais seulement une chose. Il a travaillé chaque jour égal que s'il était en finale. Chaque jour qu'il est allé à faire l'entraînement, il est allé avec la même intensité, avec tout. Mais je les ai qu'il lance une raquette dans le floor. Tu sais qu'il break une raquette parce que ça veut dire que tu n'es pas très résistant dans la tête. Non? Aussi, c'est une chose d'éducation, mais c'est toujours travailler ça, chaque jour, chaque coupe. Je ne fais jamais des choses très difficiles, ni très, parce que je ne comprends pas le jeu comme ça. Je comprends le jeu facilement et on doit essayer toujours de faire de bonnes coupes et une bonne mentalité, rien plus.
Est-ce que tu te souviens d'une galère particulière sur avant de basket? Attends, je vais chercher la traduction, bouge pas.
Oui.
Votre plus grosse galera. Galère.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est galère.
La situation la plus difficile à gérer sur un futur ou sur un challenger en dehors du cours. Tu te souviens d'un truc particulier?
Non, il n'y avait un très grand problème jamais.
Bon, bah, tant mieux.
Non. C'était toujours normal. Parce que aussi, jamais les problèmes ils sont très gros. C'est seulement la perception de chacun qu'il fait le problème très gros.
Ouais.
L'autre jour, j'étais dans l'académie et je parlais avec les entraîneurs. Oh, quelqu'un entraîneur qui avait problème avec des parents ou avec des jeunes. Non. Et je dis jamais j'avais eu un problème avec un parent ou avec un joueur. Et j'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que je ne veux voir ça comme un problème. Je vis toujours ça comme une chose naturelle. C'est normal. Qu'est-ce que tu penses? Que toute la vie, les choses, il doit aller parfait et que tu dois faire toutes les choses comme je veux, ça, non. Je sais qu'il y a quelques moments que les choses vont bien, quelques moments que les choses ne vont pas trop bien, quelques moments que tu es dehors et qu'il y a quelques problèmes, mais jamais il était un problème très gros.
Et toi? Pour toi, d'être sur le circuit, loin de tes enfants et de ta femme, c'était pas trop compliqué à gérer?
Non. J'étais très content toujours quand je l'ai fait, bien sûr. Autrefois, je n'espère que toute la vie, les choses, il va parfait, toutes les choses, non? Quand j'étais avec Raphaël, je n'étais pas avec ma famille. J'étais à l'Australie et j'aime être avec ma famille. Je suis ici à ma maison, devant la mer, avec bien une bonne piscine et bien. Mais quand j'étais à l'Australie, j'étais très content aussi parce que j'ai la possibilité de voir le meilleur tournoi, Roland Garros. Pour moi, c'est incroyable aller à Paris et pouvoir jouer à Roland Garros ou Wimbledon alors. Bien. Mais tu dois payer quelque chose. Tu ne peux penser que tout doit être parfait, que tu vas là, que tu as la famille, non. Dans la vie, tu choisis les choses. Tu as ça et ce qu'on doit payer, c'est ça. Bien. Ça, c'est ce que j'ai fait.
quand tu allais en Australie, à Paris ou n'importe où dans le monde, est-ce que tu prenais un peu de temps pour découvrir les endroits où tu étais, la ville?
Bien sûr. Je suis allé à faire des promenades chaque jour. Quand je me réveille très tôt, je suis allé à pied pour toutes les places. Par exemple, à Paris, nous étions normalement près de les Champs-Élysées, entre les Champs-Élysées et la Tour Eiffel, non? Ouais. À la rue Jean Goujon. Nous étions beaucoup de fois là. Et de là, je suis allé jusqu'à Montmartre, de Montmartre à le Panthéon. Je me fais beaucoup. Oui. Je fais toujours. Oui. J'aime beaucoup parce que je fais chaque. Bien, je fais quelques routes, non? Chaque jour, je pars Paris, j'aime beaucoup de voir. Et je m'en vais une fois jusqu'à l'Arc du Triomphe, de là jusqu'à Montmartre pour cette chemin. Je fais de quelques rues. Là, après, je m'en vais pour le Sébastopol, en bas, jusqu'à Notre-Dame, de Notre-Dame le jardin de
Luxembourg.
De Luxembourg, à le jardin de Luxembourg, à le Panthéon en arrière, qu'il y a. Bon, j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup toujours. Beaucoup de fois, presque toujours, je m'en vais de l'hôtel à le club à pied. Tu sais, Raphaël y va avec le voiture. Pas toujours, parce qu'il y a des fois que je veux parler dans la voiture avec Raphaël, mais sinon je m'en vais à pied de les Champs-Élysées jusqu'à le club, et je fais aussi différentes routes. Et ça, je fais à toutes les places, à New York, à Wimbledon, à Londres. J'aime voir la ville, et j'aime voir beaucoup au Melbourne, je me connais très bien, parce qu'au dernier moment, pour moi, ce n'est pas seulement une chose de tennis, c'est une chose de voir. Et ça, c'est, je crois, un problème. Je me souviens la première fois que nous sommes allés à Lyon, qui était une très belle ville, et je parlais avec Alex Correggio, parce que je suis allé à visiter l'ancienne ville de Lyon, qui était très jolie, et je disais à Alex Correggio, tu as vu Lyon? Que c'est très joli, nous étions là, et il m'a dit non, je ne vis pas, et c'est incroyable. J'ai dit, mais tu as joué beaucoup de fois ici à Lyon, alors j'ai intérêt pour le monde, pas seulement pour le tennis.
Depuis que Rafa est arrivé sur le circuit, dans quel domaine tu penses qu'il a le plus progressé?
La première chose, je crois qu'il a progressé beaucoup, beaucoup quand il était jeune. Parce que tout le monde il pense que Raphaël, ou beaucoup de personnes ils pensent que quand Raphaël il frappe beaucoup de fois la balle, non, qu'il est un joueur qu'il a eu un très grand contrôle et qu'il frappe seulement. Non, quand il était jeune, il était très agressif. Si tu vois jouer à Raphaël, la première fois que nous sommes allés jouer à l'Australie, qu'il a joué contre, il avait 17 ans, il a joué contre Hewitt, qui était le numéro 2 mondial, il a perdu 7-6, 7-6, 6-2. Il est toujours très agressif. Il a fait les choses bien, il va au filet, il n'avait jamais un très bon coup de service, mais il avait très bon coup de fond de cours. De cours, et il est agressif. Mais il a fait une progression toujours normale. Okay. Une progression qu'il peut avancer toujours tout un peu. La vérité est que Raphaël, il a une coordination compliquée, parce qu'il n'avait une coordination facile. Je ne sais pas comme ce qu'il a Federer ou ce qu'il a Djokovic. Non, il a des mouvements un peu plus compliqués.
Okay.
Mais toujours, il a un très bon talent. Tu sais, parce que beaucoup de fois, les personnes pensent, oh, Raphaël, il court. C'est... Non. Raphaël, il a un grand talent. Et je crois qu'il a une chose toujours très bonne. Qu'est-ce que... Dans le tennis, il y a deux choses. Non? Frapper la balle avec une bonne position et frapper la balle avec une mauvaise position. Et je crois que Raphaël, il est le mieux du monde avec une mauvaise position. Tu sais, quand il arrive très difficile, boum, il fait normalement un très bon coup. Ça, c'est un très grand talent. Mais pour lui, c'était difficile de faire les choses faciles. Tu sais, comme il fait Djokovic, il fait boum, boum, il frappe la balle. Non, pour lui, ça, c'est difficile. Égal quand il jouait à golf ou quand il jouait au foot, il était très bon au foot, mais il fait les choses difficiles, pas faciles. Mais toujours avec un très autre résultat.
Aujourd'hui, où est-ce que tu penses qu'il doit encore progresser?
Le progresser, on doit progresser toujours avec toutes les choses. Parce que si tu aimes ce que tu fais, les choses qu'il y a, c'est progresser. Je ne comprends pas faire les choses aujourd'hui égal qu'hier et demain égal qu'aujourd'hui. Mm. Si tu fais ça, tu n'es pas une vraie personne. Le plus important, c'est de progresser toujours. Et tout on peut progresser un peu. C'est normal que quand tu joues, c'est pas... Quand tu es jeune, tu as des choses. Non? Tu cours beaucoup, tu as une intensité, tu n'as pas de peur. Et quand tu es un peu plus vieux, alors tu cours un peu moins, tu as des autres choses, alors tu dois mettre plus de choses. Mais je crois que Raphaël a fait un bon progrès avec toutes les coupes. Peut-être le coup de droite, il était mieux avant, mais il joue plus facile maintenant. C'est très important, il n'a besoin pas courir comme ça. Et il y a une chose qui était déterminante pour lui. Maintenant, quand il commence avec son service, c'est beaucoup mieux. Tu sais, quand je me souviens, au fin de 2016, quand on prépare la saison de 2017, j'ai dit, Raphaël, tu dois changer définitivement ton coupe de service parce que c'est impossible que tu joues entre haut niveau si tu vas être.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Autrefois, numéro un, numéro deux mondial avec cette service. Toujours, il a fait une faute avec le coup de service parce qu'il va trop tendu à faire le service.
Trop quoi?
Et finalement, il avait le bras trop fort.
Ah, trop tendu, ouais.
Il a le bras trop tendu, alors c'est difficile. Il a changé, il savait qu'il ne peut courir égal qu'avant. Je disais, il ne court déjà égal qu'avant, alors on doit faire chaque fois mieux ça, parce que sinon tu commences le point pas bien. Alors il a commencé à changer, et au dernier moment, je crois qu'il a amélioré tout, et maintenant, il peut aller beaucoup plus à faire service volley. Il avait toujours un très bon volley parce qu'il jouait toujours très bien à double depuis qu'il était jeune. C'est seulement que quand il était dans le circuit, il sait qu'il a plus possibilité de gagner quand il reste plus temps au fond de la cour. Alors, il fait ça.
Et concrètement, vous avez fait des heures et des heures et des paniers de service pour le faire progresser?
Non, il était une chose mentale, parce que je me souviens, je disais beaucoup de temps avant, mais ça c'est une faute de moi aussi. Je me souviens quand nous étions à Wimbledon une fois, je regarde le match avec Carlos Costa, non, qui était le manager et qui était un ancien joueur de tennis. Nous jouons cette fois contre Djokovic. Demi-finale 2006-2007, je crois. Et je disais, regarde, Djokovic, il fait le service à 175, et il fait un ace, et Raphaël, il fait le service à 160-20, et nous ne faisons pas de 180, et nous ne faisons pas de
Ace.
De Ace. Et Carlos Costa m'a dit ça, c'est parce que Raphaël, il ne lit pas bien où Djokovic met la balle. Et Djokovic lit bien ce que Raphaël fait. Et j'ai dit, je ne crois pas ça. J'ai dit, je pense que la balle de Raphaël, après le rebond, il perd vitesse. Plus vitesse que le de Djokovic. Mais vraiment, je ne savais ça. J'ai pensé ça.
Ouais.
J'ai dit, il doit avoir quelque chose. Bien. Et j'ai dit toujours à Raphaël, mon fils, il m'a dit toujours, pourquoi tu laisses que Raphaël, il est trop tendu à la main et à le bras quand il fait le service. Et j'ai dit, tu crois que je veux ça? J'ai dit à mon fils, j'ai dit beaucoup de fois, mais Raphaël, et quand je disais, il me dit, non, sinon je perds la coordination et la confiance, alors je suis un peu comme ça, et je dis, alors fais ce que tu veux, non? Et ça, c'est une faute. Et il arrive un moment quand il a 2016-2017, quand il était déjà 30 ans, j'ai dit, Raphaël, on doit changer. Et je me souviens une fois, il arrive de déjà 2018, il arrive de les US Open, et je suis avec, il était à Mallorca, il a fait l'entraînement avec Carlos Moya, et il me disait, bien, je suis allé voir l'entraînement, et Raphaël, il faut le service, et Raphaël, je me souviens qu'il me disait, tu aimes ça, le service maintenant, comme nous le faisons, il a changé la position de les pieds, je ne sais pas. Et j'ai dit, Raphaël, ton problème, c'est le poignet, c'est pas les jambes. Les jambes, il peut être un problème, mais le plus important, c'est le poignet. Et j'ai dit, laisse-moi ton téléphone. Je fais une filmation de Raphaël pendant qu'il fait le service. Et après, je fais la filmation et j'entrais à YouTube et je fais le service de Murray.
Ouais.
Alors, bien, maintenant c'est difficile d'expliquer, mais c'est une chose de que Murray, après frapper la balle, il a cette position avec le poignet plus vite que Raphaël. Raphaël, il reste avec cette position.
D'accord.
Regarde, comme ça,
tendu.
Beaucoup de temps.
Ok.
Tandis, non, il ne bouge pas cette position. Et j'ai dit, bien sûr que ça, c'est ton problème et que ça, il fait que tu perds. Que ton balle, il perd vitesse quand il frappe dans le floor, non? Après le rebond, ton balle. Et il m'a dit, oui, maintenant, nous le savons ça déjà. Parce que Carlos Moya, il est allé à le Hawkeye, à New York, et il a demandé ça. On a vu que Federer, sa balle, après le service, il perd 12% de vitesse. Djokovic, 15%. Et la balle de Raphaël, 27%. Tu sais, et j'ai dit, ça, c'est ton principal problème. Et ça, il devient, j'ai dit, parce que tu ne bouges bien le poignet. Tu frappes la balle et tu ne fermes avec le poignet. Alors, la balle, tu frappes, mais chaque fois, la balle, il perd de vitesse, non? Et j'ai dit, pourquoi ton coup de droite il est très bon? Parce que tu bouges très bien le poignet. Et quand la balle, après le rebond, il va très vite. Maintenant, je crois qu'il a amélioré beaucoup ça. L'autre jour, j'ai vu le final de l'Open de les États-Unis de l'année passée.
Ouais.
Et il fait beaucoup de fois service volley. Il peut faire, alors ça, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas une chose exceptionnel. Federer, il a amélioré beaucoup, principalement son coup de retour, parce qu'il sait qu'il ne se peut bouger comme avant, alors, bien, il fait le retour mieux. C'est une chose, chacun, il peut toujours améliorer un peu.
Et aujourd'hui, avec le poignet, le pourcentage après le rebond, il a évolué comment, de Rafa? Il est de combien, tu sais?
Je ne sais pas, mais le pourcentage, mais je vois que la balle, il va bien après le rebond. Tu sais, il fait un service, par exemple, 185, et la balle, il est très bonne. Avant, il fait le service 185, et la balle, il était facile pour le contraire, pour l'adversaire, alors maintenant déjà il est bien. Je ne sais pas exactement parce que je ne suis plus avec lui. Je me regarde ça.
Selon toi, quel est le plus grand match de Rafa?
Bien, il a eu beaucoup, mais bien sûr, le final de Wimbledon, il était il avait tous les ingrédients. On joue avec un très grand tournoi, de les quatre plus importants tournois. Il a fini, c'est le numéro un et le numéro deux. Raphaël, il a gagné les deux premiers sets. Après, il a perdu les deux. Il avait trois match balls avant de gagner. Ça veut dire qu'il a de l'émotion. Et ils ont fini avec un dernier set avec beaucoup d'émotion, non? Mais je crois que le final de la US Open 2013 contre Djokovic, le match, il était incroyable. Il était incroyable. Mais les points, ils sont mieux qu'à Wimbledon. Il y a une très haute intensité. Raphaël, je crois qu'il a joué incroyable bien, et Djokovic aussi, mais le match n'était pas égal parce que au quatrième set, Djokovic, il est allé down. Il a tombé, il n'était pas trop fort dans la tête. Et après, perdre le troisième, il n'est pas trop fort. Non? Alors, le match il était un peu moins bon, mais je me souviens un match contre Djokovic à Roland Garros, très bon. En demi-finale, bien, j'ai eu beaucoup de très bons matchs à l'Open de l'Australie contre Verdasco et contre Federer, le final de 2009.
Ouais.
Oui, toujours c'est quand il a gagné.
Quand il a gagné son premier Roland à 19 ans en 2005, tu t'es dit, ça y est, c'est fait, c'est bon, on est tranquille, Roland, c'est fait. Où tu voyais beaucoup plus loin et tu voyais déjà deuxième.
Non, je disais une chose. La première chose, c'est que quand il joue à tennis, toujours quand il est jeune, il y a un rêve, non? Gagner à Roland Garros pour l'Espagne, pour nous, gagner à Roland Garros ou gagner quelques grands slams, quand même, non? Alors, avec 19 ans, on le sait. Raphaël, il a déjà gagné. Le premier Roland Garros. Pour moi, c'était très, très important de gagner toujours aussi Monte Carlo, parce que j'aime beaucoup ce tournoi, mais gagner Roland Garros était vraiment décisif. Mais quand même, j'ai fait une chose. Quand il était jeune, quand il a gagné le premier championnat de l'Espagne, j'ai appelé à la Fédération espagnole de tennis. Il n'y avait pas Internet dans ce moment, au moins je ne connais pas, nous n'avons pas ici. J'ai téléphoné à la fédération et je disais s'il me peut envoyer la liste des derniers 25 champions de l'Espagne, ouais. Dans le même âge que Raphaël. Et je lis, parce que nous étions très contents que Raphaël il a gagné le championnat de l'Espagne, mais je lis les champions de l'Espagne dans le même âge. Ouais. Je lis à Raphaël, je dis, je ne sais pas, Miguel Pérez, tu connais, non, champion d'Espagne, comme toi. Pedro Sánchez, tu connais, non, champion d'Espagne, comme toi. L'autre, champion d'Espagne, et on ne le connaît pas. OK, après il y a Alex Correia, c'est on connaît. Sergi Bruguera. De le 25, il avait, je ne sais pas, 5, 6 qu'ils étaient bons, non? Alors, je disais, ça, c'est ta possibilité, ta probabilité d'être bon, 25% ou comme ça. Alors, tu vas décider au futur où tu veux être, dans les personnes que tu ne connais pas ou dans les personnes qu'après, on connaît. Tu vas décider. Ça, c'est une chose de toi, c'est une chose de travailler. Et quand il a gagné son premier Roland Garros, j'ai dit le même. J'ai dit avant que toi, Carlos Moya, ils ont gagné trois Roland Garros, Ferrero, il a gagné. Il y a des autres qui ont gagné un tournoi de Grand Slam, mais ils ont gagné seulement un. Et, pour contre, il y a des personnes qui ont gagné beaucoup. Qui va choisir où tu vas être au fin de ta carrière? Dans les personnes qui ont gagné seulement deux, était très bien. Ou tu vas être avec les personnes qui vont gagner plus. si tu veux être dans, égal que les personnes qui ont gagné plus, Agassi, Sampras, je ne sais pas, ou beaucoup, Becker, Lendl, alors tu dois améliorer. On doit, ça seulement c'est une station, tu dois essayer de faire un peu plus, un peu plus. On doit savoir, tu vas décider. Et toute ma vie était la même. Jamais j'ai donné une grande importance à les victoires présentes. Et jamais je les ai qu'une victoire présente peut être détriment pour une victoire postérieure. Alors, c'était très important pour nous de gagner Roland Garros quand Raphaël il était 19 ans. Mais pour moi, je pensais toujours au futur. Ce n'est pas suffisant.
Tu dis que Rafa, c'est un des top 10 des joueurs les plus faciles à entraîner. Mais est-ce qu'il doute beaucoup? Est-ce qu'il se pose beaucoup de questions?
Bien, les premières choses, j'ai dit que probablement c'est le plus facile parce que jamais, pas avec moi, avec tout le monde, avec son coach, avec Franti Roggio, avec le fitness coach, jamais il a rien à dire. Alors, écoute, il a toujours une très bonne éducation. Je crois que c'est normal. S'il avait dû, c'est normal, c'est impossible de n'avoir pas doute. Seulement les fanatiques et les idiotes, ils n'ont pas doute. Quand tu es normal, tu dois avoir doute. Parce que, également, quand tu fais d'entraîneur, je ne sais pas exactement si changer de jouer à deux mains ou à une main, il ira parfaitement bien. Ou je ne sais pas si jouer avec une très haute intensité, il quitte un peu de technique. Très bien. Au dernier moment, tu as doute, mais tu prends un chemin et on doit faire le chemin. Et après, le doute, c'est normal. Et
tu disais aussi que tu étais l'entraîneur le moins cher du circuit. Est-ce que ton salaire a un peu évolué quand même avec les années?
Non, oui, c'est vrai, le moins cher. Jamais j'ai travaillé pour l'argent. Pas seulement avec mon neveu. J'aime travailler. Pour moi, le plus important, c'est si maintenant il y en a quelqu'un qui me veut payer beaucoup, une personne qui me veut payer beaucoup moins, et je peux avoir une très bonne relation, et je préfère aller avec des personnes qui sont correctes toujours. Alors, l'argent n'était pas jamais très important pour moi.
Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qu'on ne connaît pas sur Rafa?
Jamais je me souviens de ça, je ne sais pas. Non, je crois que tout c'est connu. Daniel Tams, il fait beaucoup de Tams, qu'il est dans le circuit, alors il est tout connu.
D'accord. Même à la pêche, même au golf, tout.
Oui, mais je ne me souviens d'une anecdote. Non,
Moi, j'en ai lu une qui était marrante, j'en ai lu deux. Quand une fois, tu étais chez Moya pour dîner et que Moya te dit, est-ce que tu signes?
Ah oui, oui, ça, oui. Oui, il m'avait dit que Raphaël, il avait dans ce temps 15 ans ou 14, je ne me souviens pas très bien. Il m'avait dit, tu signes un papier que Raphaël, quand il était bon, quand il était grand, il sera comme Albert Costa. Et j'ai dit non, bien sûr que je ne signe pas. Je pense que Raphaël, il sera mieux. Et quand même, mon aspiration, c'est plus haute. Si après, il n'est pas bon, pas de problème. Mais non, je vais être beaucoup mieux. Et Carlos Moya, il était un peu surpris, non? Parce que Costa, il était le vainqueur de Roland Garros, le joueur numéro 7 mondial, et il savait que ce n'est pas facile. Je crois qu'il a pensé, il pense que son neveu, il sera très bon, mais il ne sera pas. Et après, il m'a demandé, oh bien, quand après j'ai répondu ça, il m'a dit, tu signes qu'il sera un Carlos Moya, un nouveau Carlos Moya. Et j'ai dit, bien, tu as gagné Roland Garros, tu as fait finale à l'Australie, qui était le numéro un mondial. Et j'ai dit, bien, ça c'est trop. Je dois signer parce que c'est très difficile d'être aussi bon que toi, non? Mais bien, je crois qu'il était content, non, d'écouter ça. Mais après, quand j'ai fini, quand nous étions marchés de sa maison, quand j'ai fermé la porte, je disais à mon neveu, je ne signe jamais ça. Pour moi n'est pas suffi être un Carlos Moya. Et j'ai dit, bien sûr que tu seras beaucoup mieux que lui, sans peur. Quand Carlos ne m'avait pas écouté, bien sûr.
Et la fois aussi dans le vestiaire, avant la finale contre Roger à Monte-Carlo, où tu as dit à Rafa, ce Suisse, il a un meilleur coup droit que toi, il a un meilleur revers.
Oui, mais ça, c'est une chose que j'ai fait. Raphaël, il m'a demandé, Raphaël, il manque une heure pour sortir à la finale 2006. Et il m'a demandé, oh, qu'est-ce que tu penses de le match d'aujourd'hui? Et j'ai dit, je crois qu'il doit être très difficile parce que Carlos, il a. Federer, il a le coup de droit meilleur que ton coup de droite, le coup de, son coup de revers, c'est mieux que ton coup de revers. La volée, c'est beaucoup mieux que ton volée. Et quand j'ai commencé avec le service, que je veux dire, le service, il y a une très grande différence. Il m'a dit, stop, stop, arrête, arrête. Et il m'a dit, et tu me donnes un très grand moral pour aller à jouer le final. Et j'ai dit, si tu veux, je te peux dire, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, une chose qui n'est pas vraie.
Un mensonge.
Oui, je te peux dire ça, mais la vérité, c'est qu'il y a, et on le doit savoir. Et j'ai dit, bien sûr, il a tout ça mieux que toi. Mais je suis sûr que tu peux le battre. Tu peux mettre beaucoup plus d'illusions à chaque coup. Tu peux jouer avec une plus haute intensité. Et je suis sûr que tu le vas battre si tu joues chaque point comme s'il est le match point. Si tu joues chaque point comme s'il va la vie dans les bras, non, alors ça c'est une décision de toi. Et c'est toujours ça. J'aime la vérité. J'aime aussi d'avoir la confiance toujours. Ok, c'est ça, mais je crois que je ne peux faire bien.
Il y a un truc que tu n'aimes pas aussi, c'est trouver des excuses. Et tu citais la fois où Rafa disait que les balles à l'US ne prenaient pas assez de livres.
Ah oui, il m'avait dit ça. Nous étions à l'US Open et il ne joue pas bien. Et la raison de jouer pas bien, il était les balles. Que la balle il ne prend pas beaucoup de lift. Et je disais... Chaque jour, il me disait le même et j'ai dit, arrête avec les excuses, c'est toi qui n'étais pas suffisant. Bon, il m'avait dit, la balle, et j'ai dit, un moment, je m'en vais à parler avec le juge d'arbitre pour changer les balles, parce que je veux dire que j'ai un neveu qui est très délicat, qui a besoin des autres balles. Et il m'a dit, oh, toujours, tu es égal. Et j'ai dit, bien, Raphaël. La balle, ils sont, c'est ce qu'il y a, et avec ça, tu dois jouer. Après, il me disait, non, cette balle, il ne va pas bien. Après, écouter ça chaque jour, j'étais déjà fatigué d'écouter. J'ai dit, ce que tu dois faire, c'est perdre. Et après, on ira à Mallorca, et tu vas jouer avec la balle que nous voulons, et là, la balle, il prendra l'effet que tu veux, non, le lift que tu veux. Et il faisait ça. Il a perdu. J'ai dit, bien, mais je suis allé à Mallorca, il est allé à Pékin. Et à Pékin, il a gagné le tournoi.
Avec les mêmes
balles. Il a gagné le tournoi avec les mêmes balles. Je me disais, quand je le vois autrefois, je disais, oh, congrats, tu as joué vraiment bien à Pékin. Mais avec qui, je savais, avec les balles, j'étais à Mallorca, je vois le tournoi à la télévision. Et j'ai dit, tu as joué vraiment bien, mais avec quelle balle tu as joué? Quelle balle? Il sait. Oh, il m'a dit le Wilson. Ah, j'ai dit le Wilson, incroyable le Wilson. À New York, il prend le lift et à Pékin, il prend le lift. J'ai dit ça, c'est le toujours. Et ça, c'est un très grand problème. J'ai dit à l'académie, ils me sont dit si je peux mettre quelques. Sentence dans le vestiaire pour les enfants, non? Pour motiver les enfants. J'ai écrit quelqu'un, je ne sais pas si j'ai motivé aucun, mais un de que j'ai dit, c'est jamais une excuse, il a fait gagner à nous un match. Et ça, c'est la vérité. Jamais une excuse. Et c'est très. Tout le monde, il aime mettre excuse. Tout le monde. Moi, toi, tout le monde, Raphaël. Mais au dernier moment, c'est pas une bonne chose. Au dernier moment qu'il y a, ce qu'il y a, avec ça, on doit jouer, rien plus.
Est-ce que c'est avant l'académie, est-ce que c'est vrai que Rafa avait fait construire les quatre surfaces du Grand Chelem chez lui à Majorque?
Non.
Non.
Non, non, non.
Légende. Légende.
Non, non, je, non, je, non, 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 non. Il a fait seulement des cours de terre battue,
ouais.
De green set, rien plus. Le green set, c'est normal. Mais pas un comme Australie et un autre comme les US Open. Non, le normal green set, je crois que c'est semblant à l'US Open ou l'Australie. Je ne sais pas s'il y a une très grande différence.
Est-ce que vous avez souvent eu des conflits et des désaccords avec Rafa? Et si oui, comment vous
l'avez... Non.
Non, très rarement.
Non, non, pas beaucoup, mais c'est normal qu'il y ait quelqu'un. J'aime les choses plus faciles que lui. Tu sais, je n'aime pas beaucoup de choses. Je n'aime pas. Pour moi, le sport, l'importance de le sport, c'est pas de gagner. L'important de le sport, c'est l'exigence que je me mets à moi-même. Mais je n'aime pas de faire une chose compliquée. Je suis un peu plus facile avec ça. Je n'aime pas beaucoup de choses qu'il y a en arrière de grands joueurs. Mais non, nous n'avons pas jamais un conflit, non. Pas, nous avons le conflit normal qu'ils ont quand un entraîneur il veut mettre beaucoup de puissance et le joueur quelquefois dit ça suffit, il n'aimait rien plus.
Est-ce que tu as trouvé une grosse différence quand Richard Gasquet est venu s'entraîner avec vous un hiver? Est-ce que au niveau de l'intensité tu as trouvé une grosse différence entre Richard et Rafa?
Bien, Richard, toujours, il a un très bon technique, un très bon coup de revers, il a un bon touche, il fait beaucoup de choses. Je crois qu'ils sont habitués à travailler avec moins d'intensité que nous. Nous sommes habitués à travailler avec une très haute intensité, ça c'est la plus grande différence.
Et tu penses que c'est pour ça que les Français ne gagnent pas de Grand Chelem?
Bien. Bien sûr, il y a quelques questions. Quand les choses, quand le dernier vainqueur d'un grand slam était Yannick Noah, il fait beaucoup de ans, ça veut dire quelque chose. Vous êtes le pays le plus important du tennis du monde, où le tennis est un sport très important. Vous avez suffi d'argent, beaucoup plus que dans l'Espagne, pour le tennis. Et je crois que la Fédération française, à mon entendement, il fait une faute. Si j'étais le président de la Fédération française, la première chose que je veux, c'est qu'un joueur français, il gagne Roland Garros. Pas qu'il me gagne le US Open ou qu'il gagne l'Australie. Non, non, je préfère qu'il gagne Roland Garros. Alors, je dois essayer de faire un jeu pour gagner Roland Garros. Et pour gagner Roland Garros, la technique est très importante. Mais le chaussure aussi, hein. Tu dois courir. Et tu dois mettre un bal plus et avoir une bonne intensité. Et tu dois faire un jeu pour gagner Roland Garros. Alors pour moi, c'est ça. Mais bien, je parlais un peu avec le directeur de Roland Garros, avec Guy Forget, et j'ai dit. Vous devez essayer de qu'il y ait un vainqueur de la France, toujours. Alors, quand on ne gagne, pourquoi dans l'Espagne nous avons gagné beaucoup de fois Roland Garros et nous avons très bons joueurs dans le terre battue, parce que la mentalité des joueurs et les jeux des Espagnols jusqu'à maintenant, ils étaient plus proches de la terre battue. Nous avons dit Albert Costa, Carlos Moya, Ferrero, Alex Correge, qui était en finale, David Ferrer, qui était en finale, Arantxa, Muguruza, Bruguera, qui l'a gagné. Alors, nous avons beaucoup qui peuvent jouer très bien et dans la France. J'aime voir les joueurs français parce qu'ils ont une très bonne technique. Normalement, ils font le jeu très joli, mais bien, je crois que c'est mon impression, mais ça ne veut dire que c'est la vérité ou que ça c'est je crois qu'on a besoin de faire quelque chose avec le jeu pour essayer de gagner Roland Garros.
Tu penses que Rafa peut en gagner combien encore?
Oui, je pensais que cette année, il peut gagner. Si on joue dans l'octobre, je crois qu'il peut gagner.
Si Rafa te rappelle pour redevenir son coach, tu reviens ou pas?
Bien sûr, mais je suis sûr que non, qu'il n'a besoin pas. Il a un bon coach, de bons coachs, avec Francis et avec Carlos Moya, alors il ne besoin pas que je suis un coach.
Carlos, il te demande des conseils de temps en temps?
Non, jamais.
Jamais. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez Djoko et Federer?
De Federer, il fait toutes les choses très, très jolies. Très jolies et avec une très haute effectivité. Ce n'est pas facile de jouer très, très bien, très joli et comme ça avoir encore une très haute effectivité. Beaucoup de fois, quand il fait les choses comme lui, très naturel, c'est difficile après avoir une haute effectivité. Et Federer, c'est ça. Il fait toutes les choses bien. Il fait le coup de droit très bien, le coup de revers très bon, le volley très bon, le service très bon. Il se fait tout, l'amorti, toutes les choses. Et avec une très haute élégance. Et Djokovic, pour moi, Federer, il n'est pas un très grand défenseur. Et Djokovic, oui. Il peut faire l'attaque et la défense également. Et il a une position très facile. Il prend, avec un step, il prend déjà la position de la balle. Ça, c'est très difficile. Alors, ça, c'est incroyable qu'il fait ça. Et, bien, Djokovic, pour moi, était toujours très difficile de battre parce que tu ne trouves une faiblesse à son jeu. Tu ne sais pas si tu veux ouvrir le court, il fait un peu plus. Si tu vas passer seulement la balle, il te fait beaucoup. C'est difficile. Et les deux, ils sont très, très bons.
Pourquoi Djokovic est un petit peu moins populaire, selon toi?
Bien, je crois que la rivalité qu'ils ont commencé, Rafael et Federer, c'est la même chose que Real Madrid et Barça. Tu sais, quand Federer, il a tous les ingrédients. Federer, il était très bon là. Tout le monde, il a vu qu'il était très bon en 2003, 2004, 2002. Et après, il arrive un jeune qui peut-être il peut le battre, non?
Ouais.
Alors, il laisse arriver un jeune qu'il fait un jeu totalement différent, avec plus d'intensité, et il a tous les ingrédients. Un jeune qu'il peut le battre, un jeu différent, et ça, ils font populaire. Et quand même, tu vois, les deux, ils ont un très bon comportement dans le coup. Djokovic, il a aussi un bon comportement. Bien, ils ont commencé avec 7. Et pour ça, je crois qu'ils sont plus populaires que Djokovic.
Quel est le plus grand des trois, tu penses?
Il n'y a pas beaucoup de différence, la vérité. Pour moi, je crois que Rafael, il est le meilleur de tous les temps dans le terre battue, bien sûr. Federer dans l'herbe. Et peut-être Djokovic dans le cours rapide, non? Il y a qui est le mieux? C'est difficile au moment. Le mieux, c'est Djokovic, c'est Federer. Mais ça dépend qu'est-ce que tu prends. Par exemple, Rafael, il a le pourcentage de victoire plus gros. Après, Rafael, il a gagné 19 Grand Slams. Il était blessé, je crois, il avait problème 14 fois. Si on fait les proportions, Rafael, peut-être il peut gagner plus. Bien, au dernier moment, je crois qu'il y a un très peu de différence. Chacun il peut être le mieux de tous les temps.
Quand Djoko et Roger seront à la retraite et que le tennis, il n'y aura plus de compétition, ça restera des bons amis à toi?
Oui, bien sûr. Je ne comprends pas n'avoir pas une bonne relation avec les personnes que tu as fait les mêmes choses toute la vie. Je ne comprends pas que tu n'as pas un très grand respect, pas seulement pour Federer ou Djokovic, sinon toutes les personnes du circuit. Mais quand tu es a eu une très haute rivalité avec le joueur du monde, avec le meilleur joueur, avec Federer, Djokovic et David Ferrer. C'est normal que tu les apprécies beaucoup. Alors, ça, c'est le normal. Et quand ça, c'est fini, sera difficile d'avoir une très grande relation parce qu'un vit à la Suisse, et l'autre à Serbie ou à Monte Carlo, et Raphaël vit ici. Mais bien sûr que quand ils auront, je crois que quand ils finissent, on peut faire encore des matchs de seniors.
Un barbecue de temps en temps chez toi, non?
Hein?
Tu les inviteras pour un barbecue de temps en temps chez toi?
Ah, je crois qu'on peut faire.
C'est vrai que quand vous allez à Wimbledon, vous louez une maison pour tout le monde et Rafa fait la cuisine pour toute l'équipe?
Oui, il aime la cuisine et il fait beaucoup de fois, pas toujours, mais beaucoup de fois, il a fait parce qu'il aime la cuisine.
Et concernant la nouvelle génération, est-ce que tu penses qu'il ne travaille pas autant que les trois grands?
Si. Non, ils travaillent les mêmes, mais il y a une différence pour moi toujours, c'est le compromis. Ils ont un peu moins de compromis parce que la société a changé. Et il y a une différence pour moi, c'est que Djokovic ou Federer ou Raphaël, quand ils jouent bien, ils sont très bons. Quand ils jouent mal, ils sont bons. Ils gagnent aussi. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils jouent bien, ils sont très bons. Quand ils jouent mal, ils disent « Bien, on vient la semaine prochaine. » Ça, c'est la différence. Et quand ils jouent d'importants tournois, tu ne joues pas toujours bien. Pendant deux semaines, tu joues un jour bien, un autre jour pas trop bien. Un jour, tu as problème avec ton coup de droite. Un jour, tu as problème avec le coup de revers. Mais quand même, tu fais l'effort et tu peux gagner. Et les personnes d'aujourd'hui, ils font un peu moins. Une chose, je dois commencer à finir parce que j'ai du travail.
Ouais, on termine dans là, trois dernières.
Bien, fais-moi.
Est-ce que tu aimes bien le foot et si oui, tu es pour quelle équipe?
Moi?
Ouais.
Barcelone.
Barcelone, Angel.
Il a joué avec Barcelone.
Rafa, Madrid. Comment ça se passe les classicos à la famille?
Bien. Rafa, Madrid. Dans la famille, il y a un demi-part qui est fan de Real Madrid et une autre qui est fan de Barcelone.
Okay. Pour terminer, trois questions. Est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie?
Non, il n'y a pas une chose qui l'a marqué ma vie. Ma vie l'a marqué beaucoup de choses. Non, et pas seulement un, mais il y a des livres que j'ai lus avec un bon plaisir, beaucoup, mais pas ils ont marqué ma vie.
Tu peux nous en dire un seul?
Bien, par exemple, je te dirais un de, que j'ai lu déjà, il fait quelques années, mais que... C'est de Mario Vargas Llosa, La civilisation de spectacle, qu'il parle de la civilisation actuelle, mais quand même, il y a beaucoup de livres que j'ai lu bien okay. Un de Gil Thomas de la guerre civile espagnole, ou un livre de Chasse d'histoire, ou de Javier Marías, un très bon écriteur. Espagnol que j'ai lu beaucoup de fois. Je ne sais pas le mot en français, mais il y a beaucoup.
Très bien. Quelle est ta définition de la richesse?
La richesse?
Ouais.
Pour moi, la richesse matérielle, c'est avoir de l'argent, non? Mais le plus important, c'est la satisfaction personnelle dans la vie. Ça, c'est le plus important qu'il y a quand tu es vraiment satisfait de ce que tu fais. Et pour moi, tu peux être content, satisfait quand tu essayes de améliorer dans toutes les choses de la vie, pas seulement dans le tennis, dans toutes les choses, mais aussi la richesse et la santé, bien sûr. En plus, maintenant, avoir la famille, être contente avec ce que tu vives, pour moi, le matériel est important, c'est normal, parce que c'est la même chose d'être avec une bonne maison qu'une maison un peu moins bien. Mais au dernier moment, le plus important, c'est la relation personnelle. Être contente, avoir des amis, connaître des personnes. Bien. Et je crois que c'est presque impossible. Et une minute. Ce qu'on cherche toujours, c'est être heureux, non, dans la vie. Et je crois que c'est presque impossible d'être heureux si tu n'es pas une bonne personne. Alors, être bonne personne, c'est très important. Presque le plus important de tout.
Concrètement, comment t'essayes d'être une meilleure personne?
Hein?
Concrètement, comment toi, tu essayes d'être une meilleure personne?
Bien, je ne suis pas une très bonne personne, très bonne personne, je suis normal. Comme c'est plus très facile, la première chose, vouloir que tout le monde est bien. Après, ne penser, je ne pense presque jamais mauvais de les autres. Je n'ai pas un sentiment de... J'ai eu toujours une très haute admiration pour Federer, pour Djokovic. J'aime pas que Federer ou Djokovic il perd. Je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas que Real Madrid, je suis un fan de Barcelone, mais pour moi, je n'aime pas Real Madrid, non. Pour moi, j'aime les bonnes personnes et j'espère que à toutes les bonnes personnes, la vie va bien. Ça, pour moi, c'est. Mais après, si tu veux être vraiment bonne personne, tu dois aider les autres à faire un monde un peu mieux. C'est plus difficile.
Dernière question. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans le métier d'entraîneur?
Hein?
Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans le métier d'entraîneur?
J'ai perdu la voix. Dis-moi autre fois, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans le métier d'entraîneur?
Qu'est-ce qui me fait le plus heureux?
Ouais, dans le métier d'entraîneur.
Bien. Pour moi, toute ma vie, quand j'ai fini le... d'entraîner Raphaël, beaucoup de journalistes me sont demandé une question. Quel est le meilleur moment que tu as vu, que tu as passé avec Raphaël? Et j'ai dit, j'ai passé beaucoup de bons temps à Roland-Garros, surtout à Monte-Carlo, à l'US Open, à Wimbledon. Mais je crois que les meilleurs temps que j'ai passé avec Raphaël, ils étaient quand Raphaël était jeune. Et nous essayons de améliorer le coup de droite, ou le coup de revers, ou le volet, ou quelque chose. Non? Et ça, c'est le plus important pour moi. Et ça, c'est le plus important, je crois. C'est la formation. C'est toujours avoir un objectif. Et travailler fort pour essayer d'arriver à cet objectif. Ça, c'est pour moi le plus déterminant. Et ça, c'est la meilleure chose que j'ai passée dans un court de tennis. Cette illusion et cet objectif d'essayer d'être meilleur, de savoir que on doit faire les choses encore un peu mieux pour gagner à Wimbledon, pour gagner à Roland-Garros, pour gagner quelque chose, pour au dernier moment, pour être mieux.
Merci, Tony. Merci beaucoup.
OK, pas de quoi.
Merci, merci.
OK.
Bonne chance.
Au revoir.
Et mucha suerte.
Parfait.
À bientôt.
Au revoir.
Ciao, ciao.
À bientôt.
Merci les légendes d'avoir écouté cet épisode avec Oncle Tony. Vraiment, j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris des choses cool. S'il y a bien un souvenir que je garde, c'est lorsque je me suis connecté à Zoom et que j'ai vu le message apparaître. Tony Nadal vient de se connecter et demande d'accéder à la réunion. J'ai hésité à mettre oui. Je crois même que j'avais fait une photo. À l'époque, je trouvais ça un peu improbable. Et voilà, c'est quand même une chance. Ce projet me permet de vivre des moments inoubliables, je dois le dire. Voilà. N'hésitez pas à lui envoyer un message sur Instagram pour le remercier de son témoignage. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Viens me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Pense aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pense aux commentaires sur toutes les plateformes. À chaque fois, vraiment, je le répète, mais c'est un moyen de nous soutenir. Ça prend 4 secondes et demie et ça nous aide comme jamais à diffuser le travail, à le faire connaître, à avoir de nouveaux auditeurs et nous ouvrir de nouvelles portes pour avoir des invités de renom et vous régaler in fine. Vraiment, c'est un écosystème qui vit. Donc voilà, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire et qui activent aussi le bouche-oreille, puisque le bouche-oreille, c'est un des éléments qui permet le mieux de faire connaître les podcasts. Donc envoyez les épisodes aux gens qui peuvent être intéressés, diffuser, relancer, abonner. Bref, vous êtes tous des ambassadeurs à ce niveau d'écoute. Vous êtes tous des ambassadeurs du podcast et chaque geste compte pour le faire grandir. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui œuvrent chaque semaine. Je sais qu'il y en a un paquet. Merci à tous les nouveaux qui le font aussi. Et par exemple, à Dill qui m'a écrit en commentaire sur Apple Podcast. Excellent Max et bravo à tes invités de se livrer. Le contenu des interviews est top. Bravo à toi et ton équipe. Alors moi et mon équipe, ben, c'est Johan, hein, on est deux. Donc c'est vite vu. Et merci aux interviewés de se livrer. Thierry Tulane, quelle fraîcheur. Arnaud, Gilles, Simon. Franchement, c'est top. Restent les joueurs internationaux aussi, mais nos Frenchies actuels et passés. Pascal Porte, Cathy Tanvier à suivre. Eh bien, si tu peux me mettre en contact avec eux, c'est avec grand plaisir. Merci à ceux qui nous soutiennent aussi sur Tipeee, la plateforme de soutien participatif, collaboratif. Ça permet de faire des dons et de nous permettre de monter en qualité. Je vais bientôt acheter des micros, je le sens, je ne suis pas loin, ne désespérez pas. Et voilà, ça permet, dans la mesure où ce podcast n'est pas encore un projet totalement viable, eh bien d'y voir un petit peu plus clair. Donc chacun à sa mesure, ça fait du bien de se sentir soutenu. Vous pouvez taper Tipeee, T-I-P-E-E-E avec 3 E, slash, enfin espace, tennis légende, dans Google, et c'est facile à trouver. Merci par avance. On organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. On a les premiers inscrits. Je suis très très excité à cette perspective de vous rencontrer sur le cours, de bosser mentalement avec Jean-Philippe, de comprendre les blocages, de lever les doutes et de mettre en application sur le cours surtout. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier stage. Vraiment, merci à aux premières légendes qui nous font confiance et j'espère que voilà, on va pouvoir se retrouver un maximum de personnes. À la fois, il n'y a que, entre guillemets, que 8 places d'ouvertes, mais voilà, plus on est, plus le stage sera riche, j'en suis sûr. Donc un grand plaisir et bonheur et une joie mêlée, vous pouvez le sentir, de vous retrouver à cette occasion. Voilà. Maintenant, si vous avez des idées de partenariat ou autre, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, et à m'en toucher un mot. Ou sur Insta à Max _ Zamora _ TL. Je réponds évidemment à tout le monde avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode est quand même marqué d'une pierre rouge, ou bleue, ou jaune, ou verte, peu importe, mais passer plus d'une heure et demie avec Tony Nadal, c'est quand même ouf qu'on se le dise. Quelle chance. Merci d'être encore là. En tout cas, vous êtes vraiment au top. Je crois même pouvoir dire que vous êtes des légendes. Merci pour les bonnes ondes, semaine après semaine. Prenez soin de vous et à très vite